Aujourd'hui, c'est un plat un peu particulier que nous allons vous servir. Un plat qui, nous l'espérons, va éveiller vos cœurs et vos papilles, va chatouiller vos palais, vos esprits.
Pour les fêtes, prenez quelques personnages de bonne famille, un peu de pitié, beaucoup de terreur, sur un lit de mythologie, assaisonné à la mort et au chant du bouc.
En entrée, vous aurez donc...
une famille fort mal en point.
Une vraie tambouille de relations. Des parents-enfants, des frères qui s'entretuent, une guerre.
Et les deux sœurs qui se réjouissent tant. Une noce peut tout faire oublier.
Bien. Notre histoire peut commencer. À table.
À table donc, on va vous servir du théâtre, mais du théâtre d'un genre particulier. Vous nous plantez le décor, Laurence Di Félix?
Bah, vous l'avez entendu, on est au théâtre de marionnettes, où l'on sert donc au public une Antigone destinée à un jeune public. Je suis allée assister à l'avant-première, une avant-première suivie par la presse, mais aussi par trois classes de 6e primaire de l'école qui est juste à côté du théâtre de marionnettes. C'est une expérience assez surprenante. Antigone, que ce soit la pièce de Sophocle, celle d'Anouilh, celle de Brecht, c'est une tragédie qu'on a l'habitude de présenter à un public adolescent. Elle est pleine de grandes questions existentielles sur l'absolu, l'intransigeance, la révolte. Mais en l'occurrence, au théâtre de marionnettes, c'est une pièce qui est destinée aux enfants des 7 ans.
Mais ça, c'est pas un peu petit, 7 ans ?
Alors ça se discute. Après la pièce, je suis allée rencontrer trois membres indispensables de la production. Isabelle Mater, qui est la metteuse en scène, Domenico Carli, l'auteur du texte, et Christophe Kiss, qui a fabriqué les marionnettes. Ma première question, elle était pour la metteuse en scène, Isabelle Mater. Pourquoi cibler un public aussi jeune ?
7 ans, on a mis une limite. Moi, c'était un peu l'idée de l'âge de raison. Il y avait tout d'un coup cet âge de la préadolescence, disons, où il y avait déjà là des germes de ce qui se passe chez Antigone, de ce rapport entre cette jeune fille et son oncle qui est un degré supérieur dans la hiérarchie familiale et aussi qui est son roi, qui est cette autorité. Et il y a ce rapport entre des valeurs personnelles et les valeurs collectives ou les normes collectives qui en fait concernent déjà nos jeunes enfants qui sont déjà en plein dans des... Enfin, attirés par des normes collectives de groupe, que ce soit au sein même de leur jeu, de leur fonctionnement, mais aussi par... ils sont des cibles pour la consommation, dans les publicités, les chaînes de télé, on leur impose beaucoup d'images. Mais c'est vrai qu'il y a un moment aussi où eux, ils sont en train de se construire comme individus et ils doivent... déjà là, se positionner face à tout ça, face à cette norme du groupe, de la société ambiante. Et voilà, il me semblait que tout d'un coup, ce texte tragique, il va explorer un peu des mécanismes de balancement qu'on aura toujours. Là, je parle à un niveau un peu plus métaphorique que dans la résistance politique pure et dure jusqu'à la mort, comme on l'a dans l'histoire d'Antigone. Mais déjà, au niveau métaphorique, c'est ce moment où on doit choisir entre ce qu'on est et ce qu'on devrait devenir ou ce que les autres voudraient qu'on soit. Et voilà, des moments où on est tiraillé. Je trouvais que déjà aborder ce tiraillement de cette façon autour d'une histoire très forte... ça me semblait tout d'un coup évident, important en tout cas. Alors, est-ce qu'ils comprennent tout de suite maintenant? Je ne pense pas, et je pense que c'est des questions qui, un jour ou l'autre, peut-être pas tout de suite, elles seront formulées comme ça, mais peut-être qu'elles peuvent rester quelque part dans un coin, puis une fois, on a un petit éclair, voilà, sans être forcément formulées de façon intellectuelle et formelle, mais elles peuvent être déposées quelque part dans dans l'intuition ou dans des... je sais pas, dans les sens.
En fait, je crois que c'est l'histoire de deux frères qui s'entretuent à peu près parce qu'ils veulent être les deux le roi. Et puis, il y a une malédiction, et puis, je sais pas trop comment expliquer, mais. Et après, dans l'histoire, il y a les deux frères, ils ont encore deux sœurs, et puis, il y a un frère, il a voulu attaquer la ville pour pouvoir être le roi, et l'autre, il a défendu. Et après, ils sont morts les deux. Il y a leur oncle qui est devenu le roi. Et puis, son fils, il doit se marier avec la sœur des deux frères. Et il y a le frère qui a défendu. Il l'enterre. Et l'autre, il le laisse mourir au soleil. Comme il dit ça. Et après, en fait, il y a la fille, la sœur des deux frères. Elle met de la terre sur son frère qui doit mourir au soleil. Ouais, qui est déjà mort. Alors, il y a le roi, il est fâché. Et puis voilà, ça finit pas très bien.
Comment elle s'appelle, la dame qui devait se marier ?
Elle s'appelait Antigone.
Il y a plusieurs moments où on voit qu'elle ne veut pas respecter la loi de son oncle Créon, comme tu racontais. Vous pensez qu'elle a raison ou qu'elle n'a pas raison ?
Elle a raison. Moi, je pense qu'elle a raison, puisqu'elle ne fait qu'obéir à son cœur. Et puis,
Vous trouvez qu'on a raison d'obéir à ses idées si ça va jusqu'à la mort ?
Dis-moi. Oui, parce que c'était son frère et elle faisait part de sa famille. Je crois que c'est bien.
Vous êtes en train de me dire que c'est bien de désobéir à la loi, c'est ça ?
Non, mais c'est pas bien de désobéir à une loi, mais si la loi elle est injuste, c'est quand même bien d'essayer de faire que le roi il se remette les idées en place.
Les voix et les avis des enfants des classes de 6e primaire de l'école Hugo de Senguer, qui assistaient donc à la représentation d'Anos à la Noce au théâtre de marionnettes. Et la fille qui s'est jetée à l'eau, Laurence Di Félix, pour le résumé de la pièce, elle a été bien courageuse quand même, parce que c'est pas une histoire facile à raconter, Antigone.
Non, surtout dans cette adaptation, parce que le public du théâtre de marionnettes n'est pas le même que celui de Sophocle, il y a 2500 ans, qui lui connaissait tout le contexte de l'histoire d'Antigone, ce qui permettait au texte de Sophocle d'être en fait très simple. La tragédie de Sophocle, elle raconte simplement la désobéissance de la jeune Antigone envers la loi du nouveau roi Créon qui lui interdisait d'enterrer son frère Polynice. Et alors Antigone passe outre cette interdiction, ce qui crée cette situation inextricable où Créon, qui est donc l'oncle d'Antigone, pour ne pas se contredire, est obligé de la condamner à mort. Et quand il se rend compte qu'il est absurde de tuer Antigone pour sa faute, il est évidemment déjà trop tard. Antigone s'est donné la mort et avec elle, son fiancé, le fils du roi qui s'appelle Aemon.
Eh ben pas mal, vous avez bien réussi pour le résumer. Mais ça, c'est l'histoire d'Antigone. Alors qu'au théâtre de marionnettes, la pièce s'intitule « Un os à la noce ». Pourquoi ?
Eh ben justement parce que le texte n'est pas le texte de Sophocle. Si on nous montre bien ici la fable d'Antigone, elle est prise dans un enchâssement de récits, et en particulier, elle est observée par trois marionnettes vautours et une marionnette corbeau qui se positionnent sur les aventures des hommes de la tragédie. Ça, c'est un choix de la metteuse en scène Isabelle Mater, un choix que je lui ai justement demandé de m'expliquer.
Sophocle, c'est quand même très... on est au cœur de l'histoire. Il y a effectivement ces cœurs, de toute façon, qu'on aurait dû un peu réactualiser parce que les figures mythologiques disent plus grand-chose de nos jours... aux enfants qui n'ont pas encore de connaissances littéraires et tout ça. Donc on aurait eu besoin de toute façon de refaire une adaptation sur tous ces inserts qu'il y a chez Sophocle. Mais on s'est dit ensuite qu'il fallait quand même les accompagner, parce que c'est une histoire quand même lourde, enfin forte. Donc pour les accompagner, on a mis une espèce de parallèle avec un autre point de vue sur l'histoire, qui est celui des oiseaux charognards, sur le corps de Polynice. Et puis du coup, eux, ils représentent encore cette espèce de pluralité des croyances, des façons de faire, des façons de vivre, des points de vue. Et on ramène une couche, et ce qui nous permettait d'avoir des animaux sympathiques, plus cocasses, d'être dans un deuxième niveau et qui fassent le lien sur l'histoire d'Antigone, qui fassent le lien avec le public. Ils s'interrogent sur ces humains qui ont ces comportements étranges et tout ça. Ils s'interrogent, ils sont du côté du public à ce moment-là.
Dominique Ocarli, vous signez ce texte. Une des choses les plus frappantes dans le texte de Sophocle lui-même, c'est l'immense violence. On a des corps déchiquetés par des charognards, mais on a aussi une femme qu'on emmure. C'est un des soucis, la transformation de cette violence, pour vous, dans ce nouveau texte ?
Ben oui, il fallait un peu repenser tout ça, c'est-à-dire, nous sommes en 2008, et donc les codes ont changé, le fond social a changé, le fond anthropologique a changé, donc on s'est dit, il faut qu'on refasse un peu quelque chose qui soit d'aujourd'hui, avec un langage un peu modifié, et qui s'adresse surtout à ce public-là, c'est-à-dire à partir de 7 ans. Donc comment faire ? Alors là sont intervenus, comme disait Isabelle, bien sûr, les oiseaux, qui nous mettaient un filtre. En fait, les oiseaux sont un peu les enfants sur scène, ceux qui posent les mêmes questions. Et ce filtre ne nous a pas du tout édulcoré la violence, parce que la confrontation existe. Je crois que la plus grande violence est là, dans la confrontation entre Antigone et Créon. Cette scène est beaucoup plus violente que l'emmurement. L'emmurement, on peut l'imaginer, on peut... Voilà, mais sur scène, on a vraiment quelque chose de concret, c'est là. Donc la violence existe dans les mots, existe à travers les marionnettes, parce que c'est quand même un symbole extrêmement fort de voir des marionnettes dans une scène violente. On n'est pas du tout habitué à ça. Donc déjà là, pour l'imaginaire d'un enfant, d'un adolescent et d'un adulte, c'est chaque fois trois impacts différents, mais trois impacts forts. Et donc on s'est plutôt acharné là-dessus.
Et puis un autre problème que vous souleviez, Isabelle Mater, c'est celui de la relative, il ne faut pas dire inculture, mais manque de référence qu'a le jeune public qui vient vous regarder. Et ce problème-là, vous avez aussi dû le prendre en charge dans l'écriture de la nouvelle pièce.
Oui, il ne faut pas que ça devienne une muraille, cette histoire de culture à culture. Voilà, il y a un état de fait à nous maintenant, gens de théâtre, gens de littérature, gens de la culture, de faire notre travail et de continuer à transmettre, à faire les liens entre les différentes générations pour que ces légendes, ces histoires, ces fictions, ces univers-là puissent passer à travers les générations, parce que sinon, on va s'arrêter au constat et c'est pas le but. Donc nous, on a essayé de les résumer, de les synthétiser, de les retranscrire, mais d'être fidèles. Parce que Antigone, Oedipe, etc., c'est des piliers fondamentaux de notre culture occidentale. Donc il ne faut pas les brader, absolument pas. Et c'est pour ça aussi, je crois, qu'Isabelle tenait à ce projet, quoi.
On a parlé de ces vautours, de ces oiseaux, de ce corbeau qui viennent un peu accompagner le récit. Puis il y a aussi quatre garçons de salle qui, eux aussi, ont un autre rôle narratif.
Ben oui, parce que il n'y a pas de marionnette sans marionnettiste. Et on trouvait dommage de se priver de la voix du marionnettiste, qui finalement est encore un niveau dramaturgique ou de narration dont on pouvait jouer. Et on s'est amusé, Isabelle tenait à cette espèce de cadre de grande cuisine, grand restaurant, os à la noce, repas, cadavre, etc. Tout ce champ sémantique-là qu'on a mis en branle, pour créer ces petits personnages qui allaient être une espèce de petit métalangage, enfin un commentaire de la pièce, comme ça, à un autre niveau encore. Tout ça pour essayer de transmettre encore une fois cette histoire fondamentale pour l'imaginaire, pour le caractère, pour la culture de nos chères petites têtes blondes. Et ils sont là comme des espèces de... On les appelle les grands. C'est eux qui savent, qui ne savent pas, qui sont perdus, qui essayent de distiller des recettes.
Domenico Carli qui nous parlait des personnages marionnettes, bien sûr, mais on n'a pas encore vraiment évoqué les images qui sont données à voir dans cette os à la noce, Laurence Di Félix.
Alors il y a donc trois niveaux. Il y a les marionnettistes, qui sont donc des comédiens, qui sont en habit de serveur de brasserie, on l'a compris. Il y a ces quatre oiseaux très baroques, trois vautours et un corbeau, tout de plumes et de chiffons. Et puis il y a les cinq personnages de la pièce de Sophocle, marionnettes superbes qui mesurent un peu plus d'un mètre, qui sont très sobres, très simples, qui ont été fabriquées par Christophe Kiss, qui à vrai dire vous en parlera bien mieux que moi.
Alors ces marionnettes, nous les avons fait de concert avec Isabelle Mater, donc c'est vraiment le fruit d'une collaboration. Il y a deux types de marionnettes dans ce spectacle, il y a les oiseaux et les personnages humains. Pour ce qui est des oiseaux, ils ont été faits avec un plastique thermochauffant, un mélange de plastique et de tissu. Ce sont des marionnettes de table qui se prennent dans les mains des marionnettistes. Quant aux personnages humains, alors pour cela, nous avons décidé de choisir comme cadre de référence la Grèce archaïque, les personnages des Cyclades. La gageure, c'était de traduire l'apparence du marbre blanc dans un matériau propre au jeu de la marionnette. Et ce matériau, nous l'avons trouvé en faisant une recherche de résine époxy qui permet d'avoir un matériau translucide. Donc on a à peu près l'apparence du marbre dans ces marionnettes après avoir évidemment organisé un travail de laboratoire, de recherche interne à l'équipe pour éclairer ces marionnettes comme des lampes. Ouais, ce sont des marionnettes de table, donc les marionnettistes les prennent avec leurs propres mains, donc elles sont très proches du corps et elles s'allument, elles s'éteignent à chaque fois qu'elles ont l'occasion de prendre la parole. Pour ne pas brouiller l'image, on ne pouvait pas avoir recours à excessivement de détails de yeux, de détails de bouche. Toutes ces choses-là, en matière de résine translucide éclairée de l'intérieur, se perdraient vraiment depuis le public. Donc tout à coup, ces personnages de Cyclades donnaient la légitimité à ce langage de forme épurée, géométrique.
Antigone a un grand front.
Voilà, c'est son côté volontaire, c'est son côté bélier, fonceur.
Sa sœur Ismène a un visage tout rond.
Voilà, elle est plus bonne patte. Donc typiquement, alors là, on reprend en fait des qualités plastiques pour traduire un caractère.
Et puis peut-être qu'on peut parler des décors, de la scénographie, de ce système de jeu qui s'enchasse exactement comme le récit où on a différents niveaux entre les garçons de salle, les vautours et les marionnettes. Le décor lui-même se décline aussi en plusieurs dimensions différentes, Isabelle Mater.
Alors oui, on a travaillé avec Freddy Porras sur les différents espaces liés aux différentes étapes de narration. Donc on a l'espace des marionnettes humaines, qui est cet espace central, une espèce d'hôtel où normalement les manipulateurs ne montent pas dessus. Cet hôtel, c'est comme un livre, ces livres qu'on déplie, on ouvre des parties et on a des espaces différents, des différents lieux de la pièce. Après, on a cet espace de circulation des garçons de salle qui, eux, passent entre tous ces éléments, qui est le plateau, en fait, le plateau de théâtre. Et on a l'espace des oiseaux, qu'au début, on a toujours voulu un peu plus percher, un peu en dominance de cette histoire humaine, en fait. Donc, on a les arbres, ils se perchent aussi. Bon, de temps en temps, ils s'approchent du cadavre qui est devant la ville, mais ils sont perchés sur les branches des arbres, sur les toits de la ville. Ils sont toujours un petit peu au-dessus des hommes, comme ça.
Et cet arrière-plan fait d'un gros fouillis, je ne sais pas comment le décrire, cette espèce de... Une choucroute, vous appelez ça comme ça?
Bah ça, c'était c'était une proposition de Freddy qui a, parce qu'il avait envie d'avoir une toile de fond, mais on voulait aussi de temps en temps pouvoir avoir de l'ombre. Et on a un côté très géométrique dans toutes ces formes, et quelque part cette matière donne une espèce d'organicité au décor, et on l'a remise aussi dans cet hôtel à marionnettes. Donc il y a des formes très, très pures comme ça, de la même façon que les marionnettes. Enfin ça, c'est vraiment tout ce travail esthétique et un vrai travail d'équipe entre, même avec Philippe Dunant qui a fait les lumières, avec Léa Babel sur les accessoires, Freddy Porras au décor, avec Christophe Kiss aux marionnettes. On a tous travaillé avec, entre ces lignes pures et la matière. Même les marionnettes humaines, là, elles ont des lignes très pures au niveau des visages, mais leur corps, c'est vaporeux. Ça, c'est Maria Galvez qui a fait les costumes. Donc, on a des corps très vaporeux, flous comme ça, et des lignes très fortes dans les visages. On a toujours ces contrastes de l'organique et de la ligne. Et ça, on le retrouve effectivement au niveau du décor.
Un travail sur l'esthétique de la Grèce antique, mais est-ce qu'au niveau de la mise en scène, on retrouve aussi, Laurence et Félix, les formes de la tragédie grecque du vrai théâtre antique?
Non, alors en tout cas, il n'y a pas de volonté de monter une tragédie grecque avec les rituels deux ou trois acteurs, un chœur, un coryphée, des espaces distants, le chœur et la scène, etc., etc. Mais malgré tout, Isabelle Mater a cherché à marquer son spectacle de cet héritage antique.
On avait très envie, on a gardé beaucoup quand même d'éléments qui sont simplement transposés à d'autres types de réalités aussi, de lieux. Et, on n'est pas dans un amphithéâtre, on est au théâtre de marionnettes qui est très bien, mais enfin, on est aussi dans un autre temps. Hein. Mais c'est vrai, je crois qu'on a gardé quand même la notion de cœur, on l'a transposée avec les garçons de salle qui deviennent par moments comme les sujets, comme le cœur. En eux-mêmes, ils représentent dans le cœur. Avant, il y avait toujours une représentation de toutes les différentes strates sociales de la société grecque. Et là, on a une femme enceinte, on a un homme plus âgé, on a un homme tout jeune, on a quatre personnages qui sont très différents entre eux. Et à des moments qui se rassemblent complètement et on ne voit plus qu'une espèce d'unité de gens de théâtre, comme ça, de raconteurs. On a gardé aussi la notion d'insert, des chants qui viennent à des moments qui sortent de l'histoire, mais qui sont comme des commentaires sur l'histoire, chantés. La musique aussi, elle est, Adrien Kessler a beaucoup travaillé à partir de la musique antique, recomposée, pour en faire quelque chose de où à la fois de nouveau il y a des lignes, il y a des dissonances, il y a une rythmique comme ça forte, mais en même temps il y a du mélodique, enfin il y a des coupures. Non, on a gardé, je trouve, quand même pas mal d'éléments, mais transposés.
À tambourine pour vous, son parti qui pleure, pour un jour et vie, toujours, dans un pays de soi venu, faudrait pas le renvoyer. Elle avait envie d'espoir, de tendresse en mal en soi, que l'amour en cours de voix.
J'aimerais qu'on conclue avec la fin de ce spectacle qui m'a quand même surprise, où on est dans un univers de cabaret, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, où les garçons de salle se mettent à chanter en parcourant la salle et la scène, et où on n'est pas du tout dans la tragédie.
En fait, quand on parle d'Antigone, tragédie, tout le monde a un peu peur, mais moi c'est vrai que c'est pour moi un texte où effectivement c'est hyper violent et dur et tout ce qu'on veut, mais on sort de toutes les représentations que j'ai vues d'Antigone, on sort avec une espèce de vitalité, avec une force, on se sent plus intelligent en ayant, quand on voit la pièce de Sophocle comme ça, je sais pas, on se sent intelligent après l'avoir fini. Alors comme les garçons de salle le disent à la fin, ok, ça finit mal, mais maintenant il faut laisser la place à la digestion, la réflexion, marcher au grand air, qui a tort, qui a raison, il n'y a pas de réponse, il y a juste des questions qui sont posées, et ça, c'est la vie.
Et voilà! Ça finit mal!
Ah. C'est comme ça! Il y a quand même deux oiseaux qui doivent maintenant voler vers un bonheur nouveau.
Et les autres? Non, je trouve ça un peu lourd quand même. Je sens comme un truc sur l'estomac. Nous, on s'occupe du service et pas de la digestion.
Antigone meurt, c'est une chose. Elle a désobéi et elle meurt.
Domenico Carli.
Les deux oiseaux ont désobéi et ils vivent. Et on voulait peut-être rester aussi sur cette idée-là. C'est-à-dire que la désobéissance, à un moment donné, peut amener ailleurs les personnages, la vie des gens, la réflexion, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de désobéir. Si on est bien conscient de ce qu'on fait. Et là, les deux oiseaux, le corbeau et la vautourette, là, ils se disent, mais on peut, aussi différents sommes-nous, partir vers un ailleurs et créer autre chose.
Mais alors, ces oiseaux, c'est un peu le happy end nécessaire au XXe siècle, XXIe maintenant ?
Non. Non, je ne sais pas si c'est nécessaire. En tout cas, comme disait Isabelle, c'est cette énergie qui ressort, une espèce de catharsis à la fin de la pièce, il faut la transformer. On a pris cette chanson comme ça, un peu humoristique. On s'adresse quand même à des enfants de 7 ans. Il faut faire attention à des choses quand même. Il ne s'agit pas de leur flinguer la journée comme ça. Donc, c'est cette fin comme ça, qui finalement est un ballon d'oxygène à la fin. On se dit, ok, d'accord. Oui, c'est vrai, ils s'aiment, ces deux oiseaux, d'accord. Et là, ils vont probablement rentrer, en parler avec leurs camarades, avec leur maîtresse, leurs parents. Et cette histoire va revenir. Ils vont revoir une version, j'espère, pour eux plus tard, par des comédiens, d'Anouilh, de Brecht, de Sophocle, il y en a eu 1000 de versions. Donc, et ça va revenir, et peut-être qu'ils vont se dire, tiens, finalement, ces oiseaux, vous voyez comment le truc, il se poursuit, quoi. Donc, c'est pas un happy end du tout.
Voici donc nos deux oiseaux, s'embrasser comme c'est joli, et les
C'était en nouvelle diffusion le dossier de Laurence Di Félix consacré à Un os à la noce, spectacle écrit par Domenico Carli, mis en scène par Isabelle Mater, à découvrir au Petit Théâtre de Lausanne désormais dès mercredi prochain 28 janvier et jusqu'au 15 février. Ne manquez pas dès ce soir et jusqu'au 24 janvier le Wojtek de Georg Büchner, mis en scène par André Novikov, à découvrir à Forum Merin. Demain, Marie-Pierre Jeunecamp nous en fera la critique et mardi prochain, une fois rétabli, Jean-Marie Félix épuisera la matière de son dossier théâtre.